La chemise à rayures.
Info, invité, reportage.
Sur Radio Centrafrique.
Heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé.
De retour des rencontres de l'écologie au quotidien qui ont lieu chaque année depuis 9 ans dans la Drôme, je n'ai qu'une seule envie, chers auditeurs, c'est de partager avec vous quelques-unes de ces rencontres. Deux personnages, deux hommes qui ont changé de vie pour réaliser un projet plus en relation et en accord avec eux-mêmes et avec l'humain. Le premier est un lanceur d'alerte. Il s'appelle Pierre Raffenot. Il a travaillé longtemps comme informaticien dans le secteur nucléaire. Puis, suite à une forte prise de conscience, il a décidé de tout plaquer. Et il a peu à peu décidé de mettre ses connaissances au service des autres en créant une revue trimestrielle appelée L'Oiseau de Passage.
L'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous sont ainsi faits. Vivre la même vie.
Donc après avoir travaillé 20 ans sur des projets pour des clients, je dirais, dans le domaine de l'énergie, donc essentiellement EDF, à la fois côté nucléaire ou côté des réglementations du marché de l'énergie. Et après 20 ans passés dans ce domaine-là où j'en avais un petit peu assez, j'ai souhaité changer de voie et essayer de faire des choses un peu plus en cohérence avec ce qui m'intéressait. Et c'est la raison qui m'a amené à créer cette revue. Disons que ça correspondait plus du tout à mes centres d'intérêt et à ce qui me paraissait important. Et même ça allait des fois carrément à l'encontre, je dirais, de mes idéaux, que ce soit en particulier sur relativement à l'écologie et aux problèmes environnementaux. Donc le nucléaire, c'est bien quelque chose qui est revenu assez largement d'actualité en 2011 avec la catastrophe de Fukushima. J'ai pas attendu cette catastrophe pour penser que ça aurait été une bonne chose de se lancer dans l'arrêt du nucléaire plus rapidement possible. Et pourtant, j'ai travaillé pendant 10 ans pour des projets dans ce domaine-là, des projets informatiques dans ce domaine-là, dans les années 90. Après, j'ai travaillé dans la dérégulation du marché de l'énergie, qui est également en elle-même, de mon point de vue, une chimère et une perte de temps absolue, très loin de ce qu'il faudrait faire et de l'urgence, je dirais, de l'urgence écologique. Donc à un moment donné, on peut s'interroger sur la légitimité de continuer à travailler 60 heures par semaine pour des projets dont la finalité est en elle-même contestable. Donc voilà, jusqu'au jour où j'en ai eu vraiment assez et j'ai fini par tout laisser tomber et essayer de me projeter sur autre chose.
Les fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, jeunes oies édifiants.
J'ai d'abord laissé tomber mon travail et c'est après seulement que j'ai réussi à me projeter sur autre chose. Donc c'est pas venu comme ça du jour au lendemain, ça a mis plusieurs mois de réflexion. Et puis après plusieurs mois de réflexion, l'idée a commencé à émerger. Après il y a eu de longs mois de recherche pour évaluer la faisabilité de ce projet. Donc effectivement c'est quelque chose qui a mis très longtemps à mûrir et qui n'est pas arrivé tout seul.
Voilà. Ils sont fiers et contents, ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne.
Alors, l'oiseau de passage, pour moi, ça évoque un personnage d'une chanson de Georges Brassens, plus précisément une chanson basée sur un poème de Jean Richepin et chantée par Georges Brassens, qui s'appelle « Les oiseaux de passage ». Et ce personnage, c'est pour moi celui qui essaye de s'opposer au conformisme des bourgeois. Dans la chanson, c'est les bourgeois. L'idée pour moi, c'est plutôt le conformisme de l'ordre établi techno-scientifique. Donc ce personnage, c'est celui qui va essayer de voir un petit peu plus loin et de sortir un petit peu de cet ordre établi. Donc c'est de là qu'est née l'idée de ce nom de revue. Donc c'est un peu tout le monde. Et on est tous à la fois, je pense, à la fois oiseaux de passage et à la fois vieux coq. Et l'idée de cette revue, c'est de pousser un petit peu la parole de l'oiseau de passage qui est en chacun de nous et d'essayer de repousser un peu ce vieux coq qui nous empêche de voir plus loin.
Ou bien d'en avoir deux, ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres.
C'est une revue qui cherche un petit peu à alerter sur les technologies au sens large, sur des grandes thématiques à caractère technologique, dans lesquelles on a tendance à mettre beaucoup d'espérance, et beaucoup trop d'espérance, pour résoudre tous les problèmes qu'on peut imaginer, que ce soit des problèmes énergétiques, des problèmes de déplacement, des problèmes de communication. Et la technologie de ce point de vue-là est assez inhibante et nous empêche justement d'essayer de construire une société qui où l'humain serait au centre, alors qu'aujourd'hui, justement, au contraire, je pense beaucoup trop les objets basés sur, en particulier, les technologies qui nous empêchent, justement, de remettre l'humain au centre.
Et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons.
Ce sera donc des thématiques comme les biocarburants, qui est le premier sujet que j'aborde dans le numéro 1 et qui va se poursuivre dans le numéro suivant. Et après, de nombreux autres thèmes d'intérêt général vont venir, comme l'énergie nucléaire, les OGM, les nanotechnologies, la téléphonie mobile également. Je vais certainement faire un dossier sur la téléphonie mobile pour inciter les gens à réfléchir sur non seulement les aspects sanitaires, mais je dirais surtout aussi toute la problématique des ressources mobilisées pour mettre en place ces appareils, en particulier tout ce qui va être métaux rares qu'on va retrouver à la fois dans les batteries et autres. Avec une obsolescence et un renouvellement tellement rapide de ces objets que, à mon avis, on ne se pose pas assez la question de ces implications.
De voir passer les gueux, regarder les vieux coqs, jeunes oiffiantes.
Un lancement de revue, c'est quelque chose qui est vraiment pas simple. Donc l'enjeu du lancement d'une telle revue, c'est d'abord d'arriver à se faire connaître, d'abord de trouver les bons relais, de trouver les relais médiatiques qui vont accepter de faire état de l'existence de cette revue pour que ça interpelle les gens. Et après, une fois qu'il y aura pu y avoir cette communication suffisante autour de l'existence de cette revue, eh bien les lecteurs pourront juger de sa pertinence. Et mon souhait le plus ardent, c'est que ça leur plaise, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la revue ne pourra vivre que si ça plaît aux lecteurs. Et elle ne vivra pas si les lecteurs ne sont pas satisfaits de ce qu'ils trouvent à l'intérieur. Dans cette revue, il n'y a pas de publicité, donc c'est seulement le financement des lecteurs qui pourra faire vivre la revue.
Et j'ai fait mon devoir, elle a fait son devoir, c'est-à-dire que Honk, elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune.
Pierre Raffeneau est l'auteur et l'éditeur de la nouvelle revue L'Oiseau de Passage, dont le premier numéro vient de paraître en décembre 2011. Si vous désirez voir de plus près de quoi il s'agit, ou bien encore vous abonner, rendez-vous sur le site internet www.loiseaudepassage.fr. L'Oiseau de Passage tout attaché. Pour cette deuxième rencontre, voici un homme que vous connaissez peut-être déjà, puisqu'il s'agit d'un écrivain. Il a écrit sur le bonheur, la liberté et la citoyenneté intérieure. Allez, je vous aide, il s'agit de Thomas d'Assembourg. Il est l'auteur du célèbre livre paru en 2000 ans, « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Depuis, il a écrit d'autres livres et anime de nombreuses conférences de par le monde. Rencontre d'un homme qui a retourné sa veste, du bon côté si je puis dire.
En peu de mots, j'ai eu la chance de grandir dans une famille aimante, à la campagne, avec beaucoup d'amour autour de moi, mais quand même dans toutes les familles, des conflits. Et je mesurais que les êtres sont capables de plein d'attention, de générosité, mais très incapables d'éviter le conflit, la tension, et d'envenimer parfois les choses avec leurs jurements, leurs reproches, leurs a priori. Et donc j'ai eu envie de contribuer à la résolution des conflits. Et le seul métier que je voyais dans cet esprit-là, c'était d'être avocat. Et donc j'étais avocat une partie de ma vie. Mais très vite, en étant avocat, je me suis rendu compte que lorsque le conflit existe, il est le fruit d'un malentendu, et le malentendu est lui-même le fruit d'un mal exprimé et d'un mal écouté. Quelqu'un n'a pas exprimé clairement ce qu'il aimerait, ce qu'il voudrait, ce qui rendrait la vie plus agréable. Il a exprimé des critiques, des reproches, des insultes ou des injures. Et l'autre en face n'a donc pas entendu une attente, un souhait, une façon d'aménager la vie pour qu'elle soit plus agréable. Il a forcément entendu un jugement, un reproche, une critique, une insulte ou une injure. Et donc il s'est soit enfui pour se protéger, soit il a répondu sur le même ton. Et donc je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à essayer de résoudre des enjeux par des solutions juridiques, des enjeux émotionnels ou relationnels. Voilà ce qui m'a mis en route pour apprendre à comprendre la relation et à partager des clés de compréhension de la relation et de la communication. J'étais avocat pendant 5-6 ans au barreau de Bruxelles, je suis belge, et puis j'étais encore juriste pendant 10 ans. Je travaillais comme consultant, comme conseiller extérieur, mais dans une grosse multinationale américaine. Ce qui fait que j'étais amené à rencontrer toutes sortes de conflits. Il se fait que parallèlement, comme mon métier de juriste me nourrissait matériellement, assez confortablement, je peux le reconnaître, mais pas intérieurement, j'étais pas satisfait de ça. Pour donner du sens à ma vie, je me suis occupé de jeunes de la rue pendant 10 ans. Parallèlement, c'était du bénévolat. Mais très vite, en m'occupant de ces jeunes de la rue, je me suis rendu compte que j'avais envie de m'occuper de l'humain humains et non pas d'enjeux matériels, que c'était passionnant d'être dans la tentative de se comprendre mutuellement. Et ça m'a donné les premières clés de ce que j'enseigne aujourd'hui. Précisément, en vivant avec ces jeunes dans des activités, des projets, des randonnées, des voyages, on a monté pas mal de randonnées dans le désert notamment, et d'activités à l'extérieur, dans la nature, je me rendais compte que la violence extériorisée dans les agressions, le langage, les déprédations, le vandalisme, ou la violence intériorisée dans les scarifications, les automutilations, la prostitution, les addictions diverses, je me rendais compte que la violence extériorisée ou intériorisée est un manque tragique de discernement, de conscience et de vocabulaire, de mots, pour nommer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand j'ai pas les mots pour dire ma solitude, mon désarroi, ma rage, mon impuissance, quand j'ai pas les mots pour dire mes besoins d'appartenance, de reconnaissance, d'être écouté, d'être compris, puis de trouver du sens dans ma vie et bien sûr d'être aimé, quand je n'ai pas ce discernement et cette capacité à mettre en mots ce qui se passe en moi, la vie bouillonne et il faut que ça sorte, et ça sort dans l'agression à l'extérieur ou dans l'agression retournée sur moi. Et c'est là que j'ai compris que j'avais besoin moi-même d'apprendre à mieux me comprendre. Je n'avais aucune ressource autre que mon travail, donc j'ai fait une transition douce entre le moment où j'ai décidé de changer de vie et le moment où j'ai pu vivre de ma nouvelle vie de thérapeute, de formateur, puis de conférencier, et puis finalement d'auteur. Eh bien, il m'a fallu à peu près 8 ans de transition pour me former, pour apprendre à me connaître d'abord, et petit à petit développer une nouvelle pratique. Bon, j'ai eu la chance, comme j'étais indépendant, de pouvoir renégocier mon contrat en un mi-temps, du temps libre pour former ma nouvelle pratique. Et c'est ce qui m'a permis petit à petit de devenir autonome et de vivre de mon métier de thérapeute et de formateur. Et d'aider les gens autrement. Bien sûr, le fil rouge de mon chemin de vie, c'est le goût de contribuer à résoudre les conflits. Et au-delà de la résolution de conflits, c'est d'amener les êtres humains à mieux connaître leur être profond derrière leur personnage, à connaître la vraie personne qu'ils sont derrière le personnage construit que nous avons tous par nos éducations, par nos habitudes, par nos fonctionnements. Parce que j'ai acquis la conviction, en accompagnant les personnes, que c'est en étant vraiment nous-mêmes à l'intime de nous que nous sommes généreux de nous. Au fond, nous sommes pris au piège, et nous le sentons bien. Nous sentons bien que nous vivons petits, nous vivons coincés, nous vivons dans ce que j'appelle des enfermements qui peuvent se révéler infernaux dans des habitudes de fonctionnement, des automatismes de pensée, des préjugés, des systèmes dogmatiques, de références, et que ça ne correspond pas à l'élan de vie extrêmement généreux qui tend vers l'infini qui est en nous. Nous avons du mal à nous accommoder de cette finitude-là. Et donc, l'idée, c'est de retrouver cette nature infinie, cette dimension de notre être qui est vraiment notre véritable nature, notre essence, en comprenant les pièges et les enfermements. Donc remettre en question sa façon de vivre est une clé pour sortir du piège. Et donc mon travail consiste à partager des prises de conscience permettant de localiser le piège et de comprendre comment il s'est enclenché pour pouvoir le désenclencher.
Thomas Dassimbourg, l'un des écrivains conférenciers qui se trouvait la semaine dernière dans la Drôme aux rencontres de l'écologie. Je vous invite à le lire ou bien encore à le rencontrer, cela vaut le détour.